Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière Covidienne de la semaine sur les ondes de Radio Campus Angers. On est à nouveau ensemble pendant 30 minutes afin de discuter de l'actualité locale. Et ce soir, c'est une interview un peu long format que l'on vous propose. On a pu s'entretenir avec Anthony Poirodeau, qui était l'auteur invité du dernier numéro paru de la revue 303, édité par l'association du même nom. Le numéro s'intitule « De Gilles de Rais à Barbe Bleue » et je vous propose que l'on commence sans plus tarder. Très bonne émission à toutes et à tous. Nous avons déjà eu l'occasion de dire tout le bien que nous pensions des parutions des éditions 303, qu'il s'agisse d'Écartés d'Anjou, de leur atlas des curiosités, dont nous avions d'ailleurs pu discuter avec Eva Proutot, présidente de l'association 303 en juin dernier, ou encore de la revue 303 Art Recherche Création. C'est sur cette dernière que nous allons revenir aujourd'hui à l'occasion de la sortie du numéro 164, intitulé « De Gilles de Rais à Barbe Bleue ». Pour revenir sur ces deux figures et discuter de ce numéro, nous sommes en compagnie d'Anthony Poirodeau, auteur invité de la revue. Alors, vous avez fait des études en histoire de l'art, vous avez un doctorat à l'EHESS et vous vous êtes ensuite consacré à la littérature en vous exprimant à travers différents blogs et différents sites. Votre premier ouvrage, Projet El Poquero, dans une ville fantôme de la crise espagnole, est sorti en 2013. Vous êtes devenu en 2017 membre du CA de l'association 303 et c'est la même année que vous avez sorti votre deuxième livre, Churchill Manitoba. C'est ça?
Oui, alors c'est tout à fait exact. À un petit détail près, j'ai pas fini mon doctorat. Mais sinon, c'est juste.
Avant de revenir sur ce numéro en particulier, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter, vous, votre rapport à la revue 303, comment vous l'avez découverte et ce qui vous a amené à y contribuer de manière régulière?
Moi, je l'avais découverte il y a assez longtemps parce que je suis originaire de la région Pays de la Loire. J'ai vécu en Vendée jusqu'à mes 19 ans, puis j'ai fait une partie de mes études à Nantes avant de quitter la région. Et à l'époque où j'étais étudiant à Nantes, donc toute fin des années 90, début des années 2000, bah, la revue existait déjà. Et étant étudiant à l'époque en histoire de l'art, elle parlait souvent de questions patrimoniales, architecturales, etc. Donc voilà, j'avais connaissance de cette revue. Et puis, du temps a passé, j'ai quitté la région avant de revenir y vivre en 2016. Mais un peu avant ça, j'avais repris contact avec cette revue pour des raisons un peu personnelles. Il se trouve que la directrice de cette revue, qui s'appelle Aurélie Guiton, est une amie d'assez longue date avec qui j'avais fait une partie de mes études. Et quand elle a pris la direction de cette revue, j'ai eu la curiosité de retourner la lire. Et puis Aurélie avait eu à l'occasion de quelques numéros qui s'y prêtaient l'idée de me proposer d'écrire dans cette revue. Donc c'est comme ça que j'ai repris contact comme auteur avec cette revue, puis revenant vivre à Nantes en 2016 devenant une sorte de un peu de compagnon de cette revue, j'ai eu l'occasion parce qu'il y avait eu la nécessité à un moment de renouveler un peu et le CA de l'association et le comité de rédaction de la revue, parce que des personnes le quittaient par manque de disponibilité, on m'a proposé de l'intégrer, ce que j'ai fait avec vraiment beaucoup de plaisir, parce que c'est très agréable aussi de suivre un peu de l'intérieur comment se construit le travail de cette revue au-delà d'une contribution ponctuelle, très, très agréable.
Pour commencer par l'aspect contribution ponctuelle, comment est-ce que ça se passe? Alors, vous l'avez évoqué, on vous contacte à l'occasion d'un numéro particulier en vous proposant la thématique et vous dites oui ou non, ou est-ce que ça peut arriver que vous ayez vent de plusieurs thématiques en avance, parce qu'il me semble que les thématiques sont choisies comme un moment en avance et que vous puissiez également les solliciter pour dire tiens, ce numéro, cette thématique m'intéresse.
Alors, depuis que j'ai intégré le comité de rédaction qui est composé, j'ai plus le nombre exact en tête, mais d'une dizaine de personnes, je crois. quelques personnes qui sont membres de l'équipe des permanents 303, puis des personnalités extérieures liées à la région, à un Pays de la Loire, que ce soit des critiques d'art, des spécialistes du patrimoine, bon, moi je suis écrivain, des gens qui suivent l'actualité du spectacle vivant, etc. Depuis que j'ai intégré ce comité de rédaction, et ben effectivement je me suis retrouvé un peu plus comme mes collègues du comité de rédaction dans cette situation de ben on discute en comité, on a une réunion tous les 3 mois, je dirais environ. On discute des sujets à venir, des choses qui nous semblent de bonnes idées parce qu'elles ont à la fois un ancrage régional et une richesse intéressante. À ce moment-là, effectivement, on élabore ensemble des pistes d'auteurs ou d'autrices à inviter, que ce soit des chercheurs ou des personnes qui vont aborder ça d'une manière plus artistique, on va dire, plus littéraire. Et puis, étant dans cette situation-là, effectivement, il n'est pas rare qu'on se signale les uns les autres que « Ah, moi, j'ai pensé à ça, j'aimerais vraiment bien écrire là-dessus. » C'est un peu une sorte d'avantage, d'une certaine manière, de faire partie du comité de rédaction. Bon, toutefois, on essaye quand même d'être assez, comment dire, équilibré, et surtout de donner la possibilité d'avoir une certaine ouverture, enfin beaucoup d'ouverture. Tous les numéros ont des sommaires qui ont majoritairement des gens qui ne sont pas au comité de rédaction. C'est vraiment essentiel.
Pour revenir plus en détail sur ce numéro 164, qui s'intitule donc « De Gilles Deray à Barbe Bleue », est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous présenter ces deux figures qui, si le deuxième est peut-être plus évocateur que le premier, sont liées?
L'idée de ce numéro « De Gilles Deray à Barbe Bleue » était de faire, cohabiter d'une certaine manière et se croiser de figures qui ont la particularité d'être à la fois d'origine vraiment différente, puisqu'il y en a une qui est une figure historique et l'autre qui est une figure imaginaire, une figure fictive, et une autre particularité, c'est d'avoir des origines, donc effectivement, comme je viens de le dire, différentes, mais d'avoir d'une certaine manière un peu fusionné à un moment. Alors la première figure, tant chronologiquement que dans l'ordre du titre, c'est Gilles Deray. Gilles Deray, c'est une figure, quant à elle, donc historique, qui a vécu au début du XVe siècle, qui a vécu dans l'ouest de la France. C'est un seigneur très puissant qui avait des possessions entre la Vendée, l'Anjou, les limites de la Bretagne, ce qu'on appelle le Pays de Ray aujourd'hui, c'est-à-dire le sud-ouest du département de la Loire-Atlantique. Et c'était un seigneur très très puissant pour des raisons d'héritage. Il était issu de lignées de plusieurs familles très riches de l'ouest de la France. Et puis qui a été une figure un peu imminente au début du XVe siècle, à l'époque de la guerre de Cent Ans, parce qu'il a participé à l'épopée militaire de Jeanne d'Arc. Il a eu un rôle certainement important au moment du siège d'Orléans par Jeanne d'Arc, et puis du sacre de Reims de Charles VII, que l'épopée militaire de Jeanne d'Arc a conduit à pouvoir être sacré à Reims. Donc là, Gilles Deray était assez important à ce moment-là. Et puis plus tard dans la biographie de Gilles Deray, et c'est ce qui a aussi beaucoup fait pour sa notoriété au-delà de son époque, il a eu une partie de sa vie jusqu'à sa mort en 1440 très maudite, puisqu'il est devenu une sorte de criminel inouï, vraiment auteur de crimes très complexes, parce que ça y mêlait à la fois des choses qui, du point de vue de la religion, étaient de l'ordre de l'hérésie, des tentatives alchimiques et sataniques, et puis des assassinats et des viols d'enfants de manière assez abondante. Donc ça a fait une sorte de criminel tout à fait inouï, qui a été, on va peut-être en reparler plus tard, je sais pas, mais redécouvert d'une certaine manière au XIXe siècle. La fascination et l'horreur qu'inspirait la fin de la vie avec ses crimes sidérants d'horreur qu'il a commis à la fin de sa vie, ça a été redécouvert au XIXe siècle, et puis il en a pas mal été question sous différentes formes, en littérature notamment, mais pas seulement, au XXe siècle. Et puis à Barbe Bleue, et Barbe Bleue, lui, c'est un personnage de conte. Barbe Bleue, c'est un personnage de conte qui a un conte de Charles Perrault, le célèbre auteur de contes français du XVIIe siècle. Et le Comte de Barbe Bleue, il a été publié en, si je me souviens bien de la date, en 1697, à la fin du XVIIe siècle, c'est-à-dire plusieurs siècles après les faits qui concernent Gilles de Rais. Et avec cette chose étonnante, c'est que dans l'ouest de la France, à un moment, Gilles de Rais et Barbe Bleue se sont un peu confondus. Si bien que quand on racontait dans l'ouest de la France, dans le pays nantais, en Anjou, en Vendée, l'histoire de Barbe Bleue, on l'appelle Gilles de Rais. Et puis quand on raconte le conte de Barbe Bleue, on dit que ça se passe à Tifauge, là où Gilles de Rais avait un château, ou à Machecoul, etc. Donc voilà, une espèce de mélange qui se fait. Mais c'est un mélange un peu étonnant parce que Barbe Bleue lui-même, on sait que Perrault ne s'est pas inspiré de Gilles de Rais pour l'écrire. Voilà, on ne connaît pas très bien les sources de Perrault, contrairement à pas mal d'autres contes de Perrault dont on connaît les sources, c'est-à-dire des versions plus anciennes de contes qu'il a repris. Et là, c'est pas le cas. C'est comme une sorte d'histoire presque inédite de Perrault dont on ne connaît pas les sources. Mais dans la région où avait sévi Gilles de Rais, il avait été transformé déjà en figure de conte un peu, comme une figure d'ogre, de croque-mitaine, etc. Et donc, la popularité ultérieure du conte de Perrault a fait que l'amalgame était possible, et l'amalgame a été fait à partir du XVIIIe siècle environ jusqu'à encore il n'y a pas si longtemps où dans les traditions populaires dans l'ouest de la France, Gilles de Rais et Barbe Bleue et réciproquement.
On devine donc, vous aviez évoqué tout à l'heure pour le choix des thématiques, des numéros de manière générale, le double intérêt qu'il s'agisse d'un sujet ancré sur le territoire et à la fois qui propose une certaine richesse. Donc là, on est effectivement en plein dedans.
Ouais, tout à fait. C'est tout à fait un peu notre double critère à chaque fois, c'est-à-dire d'avoir un sujet qui soit pour chaque dossier des numéros de la revue, un sujet qui est une richesse qui puisse être décomposée en un certain nombre de thématiques, être pris par différentes approches, je sais pas, géographiques, architecturales, littéraires, des arts plastiques, d'histoire, voilà, puisse se prendre de plein de manières, et que les questions qu'il pose ne soient pas un intérêt exclusivement local, voilà. Mais toutefois, avec l'idée que y ait un ancrage local, régional, vraiment assez fort, assez patent, quoi, dans la région, que ce soit des sujets un peu on avait fait un hors-série il y a quelques années sur la mer, la région Pays de la Loire a une façade maritime qui permet que on puisse regarder comment est le littoral dans la région Pays de la Loire, mais c'est un sujet beaucoup plus vaste. Et là, effectivement, avec Gilles de Rais et Barbe Bleue, on peut parler à la fois de la période de la guerre de Cent Ans, on peut parler de des contes, on peut parler de la littérature, du cinéma qui s'est emparé, que ce soit de la figure de Gilles de Rais et de Barbe Bleue, et en même temps, on parle bel et bien d'événements qui se sont déroulés dans ce qui deviendra le Maine-et-Loire, dans ce qui deviendra la Loire-Atlantique, la Vendée, etc. Donc on est vraiment effectivement dans cette double exigence-là qu'on essaye de travailler à chaque numéro.
Et donc là, j'ai aussi l'impression que effectivement, donc l'idée c'était d'avoir, comme d'habitude, la multiplicité des approches, mais aussi d'illustrer les différents prismes à travers lesquels on a vu ces deux figures, justement à travers le temps.
Ouais, tout à fait. À travers le temps, ça c'est un critère très très important. C'est parce que effectivement, une singularité aussi de ces deux figures, outre le fait que elles ont des origines différentes et qu'à un moment elles se sont confondues, c'est que elles ont une grande plasticité. Au sens où, entre le XVe siècle pour Barbe Bleue et aujourd'hui, ou la fin du XVIIe le XVe siècle pour Gilles de Rais, jusqu'à aujourd'hui, et la fin du XVIIe siècle pour Barbe Bleue jusqu'à aujourd'hui, elles ont l'une comme l'autre existé sous différents aspects et au travers de différentes approches sur des longues périodes. Et selon les périodes, on ne retient pas la même chose de la figure, et donc ça révèle en miroir quelque chose de l'époque ou de la société qui mettons Gilles de Rais, s'intéressant particulièrement à Gilles de Rais, au XXe siècle, ça nous dit aussi quelque chose de la société qui le regarde sous cet angle-là. Gilles de Rais, qui avait, pour prendre le cas de Gilles de Rais, qui avait été effectivement condamné au XVe siècle, surtout pour des faits d'hérésie, d'outrage à la majesté, que ce soit de l'Église ou du duc de Bretagne, va beaucoup plus être regardé à la fin du XIXe siècle, au XXe siècle, sous l'angle de la dimension, comment dire, la plus horrifique de ces crimes sexuels, de pédocriminalité, etc. On le regarde pas sous le même aspect. Et Barbe Bleue, c'est aussi la même chose. Ce que nous dit Barbe Bleue aujourd'hui à des regards contemporains n'est pas forcément la même chose que ce qu'on aurait perçu à des périodes précédentes, ce qui est très singulier, par exemple, et peut-être c'est aussi ce dont j'ai voulu parler moi dans mon propre texte. Ce qui est très singulier, c'est que la figure de Gilles de Rais, la figure de Barbe Bleue, à mes yeux, c'est difficile aujourd'hui de les regarder sans avoir en tête la conscience contemporaine qu'on a des féminicides et qu'on a de la pédocriminalité. Je pense que c'est maintenant impossible c'est impossible de ne pas voir que ces histoires nous parlent de ça aujourd'hui. Alors que, sans doute, au XIXe siècle, elles nous parlaient d'autre chose. Voilà. Donc c'est aussi l'évolution du regard sur ces deux figures qui s'agissait d'examiner avec ce dossier.
D'ailleurs, oui, on peut revenir un peu plus longuement sur votre texte, qui est donc intitulé Gilles de Rais, horreur et attraction du mal. Vous parlez donc justement de ce que vous aviez un peu évoqué sur le retour un peu à partir du 19e siècle de la figure de Gilles de Rais. Est-ce que vous pouvez revenir un peu avant ça, et bien sûr la période de creux, entre guillemets, qu'il y a eu sur le moment où on a un peu perdu de vue cette figure avant qu'elle revienne au 19e?
Donc donc Gilles de Rais, comme je le disais, une figure du début du XVe siècle, qui a été peut-être pas à un niveau exceptionnel, mais qui quand même a généré déjà de son vivant, peu de temps après sa mort, généré pas mal de textes. Bon, c'est un seigneur très puissant, que ce soit du texte juridique, les minutes de son procès, le fait que des héritiers aient voulu faire un recours en justice parce que le procès de Gilles de Rais les avait dépossédés de leur héritage, donc ils ont voulu rétrospectivement plaider la folie de leur aïeul pour récupérer l'héritage, ou des choses comme ça. Il y a eu pas mal de textes. Et puis après, il y a eu une sorte de longue entrée dans une sorte de discrétion de cette figure, qui n'avait pas été totalement oubliée. Mais c'est sous l'angle de son procès qu'il avait qu'on avait gardé sa mémoire. Mais dans des petits par des documents qui ne concernaient que les lettrés, on va dire. Donc c'était une existence, une mémoire très confidentielle. Et puis, en fait, il commence à réapparaître dans la mémoire d'une manière plus importante, petit à petit au XVIIIe siècle, et puis beaucoup au XIXe siècle. Et moi, c'est aussi pas mal ce qui m'a interrogé, c'est que cette sortie de l'oubli, pas d'un oubli total, sinon il aurait été beaucoup plus difficile qu'il réapparaisse, mais cette sortie de l'oubli au XIXe siècle, et je me suis un peu interrogé sur qu'est-ce qui avait pu produire ça. Parce qu'on constate donc que ce qui est vraiment décisif, comme je le disais déjà un peu, c'est la publication des minutes de son procès. Il y a eu deux procès, un procès civil et un procès religieux, donc des documents qui aujourd'hui sont conservés aux archives départementales de Loire-Atlantique, et puis qui étaient considérés pendant longtemps comme impubliables parce que trop horrifiques. Et puis à la fin du 19e siècle, il y a un historien ecclésiastique vendéen qui s'appelle Eugène Bossard qui fait une sorte de monographie assez importante, qui est toujours publiée, de Gilles de Rais, et qui publie en latin une sorte de version expurgée des minutes du procès. Et ça va faire revenir là Gilles de Rais, qui était déjà un peu revenu sous l'angle d'une figure romantique au sens gothique un peu plus tôt, mais ça va vraiment le faire revenir dans la littérature. Il y a notamment ce roman très étonnant, très 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 riche de Joris Carl Huysmans qui s'appelle Là-bas, qui date de quelques années après la publication de ces minutes de procès. Et donc, là, c'est aussi l'idée de m'interroger sur qu'est-ce qui a pu faire revenir Gilles de Rais comme mythe, un peu comme mythe historique dont s'emparent la littérature et la culture. Et mon hypothèse, mais je ne suis pas du tout sûr qu'elle soit approuvée par les historiens. Moi, je suis écrivain. J'essaie d'avoir un peu de le plus possible de rigueur intellectuelle, mais je suis pas historien. Mon hypothèse, c'est que contrairement à ce que les auteurs du XXe siècle affirmaient, de bonne foi, je pense, Gilles de Rais n'est pas tant une figure de la subversion, ce qu'il est évidemment, mais les auteurs du XXe siècle, à commencer par Huysmans, du fin du XIXe, Huysmans et Georges Bataille, et d'autres, voilà, ont été fascinés par Gilles de Rais comme une figure hostile à toute société, inassimilable pour toute société par une figure de la subversion majeure. Et alors moi, je me dis que depuis le regard contemporain, ce qui est frappant, je trouve, c'est que Gilles de Rais, c'est vraiment une sorte de figure de la domination. C'est vraiment une figure de la domination ravageuse de l'adulte des adultes sur les enfants, des riches sur les pauvres, etc. De la construction de la virilité contre la construction de ce qui est davantage dépourvu de moyens d'agir, etc., etc. Et donc pour moi, le fait que ça qui refasse retour au XIXe siècle, Gilles de Rais, c'est plutôt le signe que il est plutôt comme un refoulé quoi du capitalisme industriel et du fait que le capitalisme aujourd'hui donc est post-industriel, qu'un capitalisme financier soit un dilapidateur de l'avenir des ressources. Gilles de Rais est un grand dilapidateur de ressources et aussi un dilapidateur de l'avenir, de son propre avenir et de l'avenir de la société qui l'entourait en s'en prenant aux enfants. Voilà, c'est un peu l'idée que je voulais, l'hypothèse que je voulais défendre. Une hypothèse un peu hérétique, mais
je trouve qu'il y a encore eu un très beau travail également d'iconographie tout au long de ce numéro, que ça soit voilà à travers les différents articles, mais aussi à travers les travaux qui ont été réalisés avec les blasons de Quentin Faucompré ou la carte blanche à Martha Orzel qui signe aussi la couverture. Je me demandais simplement si c'était également vous, le comité de lecture, qui s'occuper de cette partie un peu iconographie et du choix des illustrateurs et illustratrices, ou comment ça se passait à ce niveau-là.
Ouais. Alors c'est en partie le comité de rédaction effectivement qui s'en occupe, c'est en partie les auteurs qui font des suggestions d'illustrations dont ils ont connaissance, qui leur semblent pertinents, mais ça c'est seulement en partie parce qu'il y a un travail extraordinaire qui est fait à chaque numéro par une membre de l'équipe qui est chargée du suivi éditorial des numéros de la revue, qui s'appelle Karine Selin. Et elle fait un travail vraiment énorme et extraordinairement beau et juste de recherche iconographique. Vraiment, c'est à chaque fois assez épatant. Et c'est vraiment Karine que c'est beaucoup dû. Voilà, ça, il faut bien le dire.
Peut-être un petit mot sur le prochain numéro qui devrait paraître finalement dans quelques semaines, me semble-t-il. Est-ce qu'il est voilà, quel est son état, enfin simplement sans vouloir divulguer la thématique, mais dans quel état d'avancement est-il?
Ouais, tout à fait. Alors, il faut que je me remette les dates en tête. Il va y avoir un numéro qui va sortir bientôt, qui va être le numéro hors série de annuel de la revue 303. Donc chaque année, la revue 303 publie 4 numéros, plus un hors-série. Chaque numéro trimestriel paraît avec une petite centaine de pages. Et puis le numéro hors-série, il a plutôt 250 pages environ. L'Atlas des curiosités que vous aviez cité tout à l'heure, c'était le numéro hors-série de l'année dernière. Et donc il y a le numéro hors-série qui va sortir au printemps, qui est un numéro qui va être consacré aux mémoires industrielles. Et puis il y aura, je vais faire comme si j'étais autorisé à le divulguer, hein, on m'a pas signifié d'interdit. Il y aura un numéro ensuite, en trimestriel, qui sortira, qui sera un numéro consacré aux arbres. Il y a déjà eu un numéro il y a quelques années qui était consacré aux forêts. Et là c'est notre focal sur cette question du végétal avec la question des arbres. Voilà.
Super. Eh bien, merci pour les infos exclusives. Et, on les attendra avec impatience. Et puis, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces questions.
Oui, merci beaucoup à vous pour votre invitation. Merci.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ce soir, c'est jeudi soir. Retrouvez vos émissions dédiées aux musiques électroniques. Ça sera Tout d'abord, Technis pour une émission consacrée à la chaîne Nova Presents, suivie de Quarksomatic pour sa spéciale Daft Punk à l'occasion, bien évidemment, de leur séparation. On se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles quotidiennes. D'ici là, portez-vous bien. Très belle soirée. Très bon week-end.